Et plusieurs personnes arrêtées et exécutées dans la résistance, mais il y a toujours une résistance. Il m'a dit récemment, écoute, ce que BP a fait en Golfe du Mexique est rien par rapport à ce que Exxon et Texaco et les autres font en le Delta. C'est rien. Alors c'est très sévère, hein, la pollution là, et la qualité de vie est lamentable. Alors, il écrit de l'esprit encore. Les gens avec une âme en capacité de réfléchir, une vie intérieure, qui sait comment faire la stratégie, trouver les tactiques et logistiques et résister. Et bien entendu, il comprend que cette résistance va provoquer une contre-résistance, mais ils sont toujours en contact avec cette contre-résistance pour battre. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas être un objet manipulé maintenant. C'est trop tard. Ils ont une vie intérieure et c'est impossible maintenant pour eux. Ils doivent accepter de mourir même, hein, en faisant la résistance. Mais la résistance est la façon de vivre. Et d'accepter la mort est le premier pas. On ne peut pas résister si on n'accepte pas la possibilité de mourir. Peterson, Nagy Ofor, parle de ça. Le dernier auteur qui n'est pas disponible à venir ce soir, c'est Anthony Wilden, qui est professeur en Canada, Simon Fraser, à Vancouver, Canada. Wilden m'a impressionné beaucoup. Il a écrit deux livres. Je suis en contact avec lui souvent par téléphone. Il est très bavard. Il a écrit deux livres qui, je suppose, peut-être a sauvé ma vie. Hein. J'ai passé par un moment très, très dur, difficile à Grenoble, en 2004-2005. Et j'ai cherché une capacité, une autre optique, une possibilité de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est cette contre-résistance qui prend tellement sérieux les gens critiques, hein, qui veut écraser les gens critiques? Même s'il ne fait pas, ils font rien illégal, ils cherchent à écraser. Alors, mes cours magistraux étaient surveillés par les inconnus, mais les gens qui ne sont pas mes étudiants, et autre chose, et j'ai senti un stress assez prononcé. Alors, j'ai trouvé Wilden sur Internet. C'est quelqu'un que j'ai lu, il a écrit plusieurs. Jacques Lacan, il a travaillé avec Lacan il y a longtemps à Paris. Mais maintenant, il a écrit un livre, System and Structure, que j'ai lu en San Diego, Californie, que j'ai trouvé intéressant. Je n'étais pas au courant de Lacan beaucoup. Il a utilisé ses idées et j'ai trouvé ça fascinant. Alors, quand j'étais dans cette condition de stress, j'ai cherché par hasard un jour Wilden, et tout d'un coup, en Amazon, il y a deux livres par Wilden pour 19 centimes. Alors, le livre est payé, 400-500 pages. Alors, j'ai payé mes 19 centimes deux fois, j'ai acheté ces livres et c'était extraordinaire. C'était tellement profond pour moi. C'était le bon moment d'avoir ces idées-là et fascinant. Alors ça m'a relancé dans une vie intellectuelle et qui était à propos de la répression que j'ai vécue au moment. Faction française fasciste, ça existe quand même, comme vous savez mieux que moi peut-être, mais je sais très bien aussi maintenant. Alors, j'ai lu Wilden et j'ai trouvé les idées très importantes. Alors, j'ai demandé à Wilden s'il était prêt de participer à une conférence. Il n'était pas disponible de venir aux conférences, ni à Chambéry, ni à Nanterre. Mais il a fait une contribution pour les deux livres, sur le patriarcat, qui était en 2007. Et en sept livres maintenant sur War and Resistance, qui viennent, les excerpts qui viennent de ces livres, des choses qu'il a déjà publiées. So Wilden, il y a une faute de frappe là, the strategic envelopment, not envelope, but envelopment, mais c'est un théorie qui il développe l'idée de Napoléon, de envelopment. Vous qui savez l'histoire de la guerre, les stratégies, c'est que Napoléon a inventé quelque chose en 19e siècle. Et cette réussite, c'était bien comme toutes les technologies et toutes les techniques, c'est appris très vite par les autres, l'ennemi. Hein, c'est maintenant c'est utilisé par tout le monde. Mais c'est lui qui a inventé l'envelopment. Hein. C'est un peu comme la stratégie de Go. Plutôt qu'écraser l'ennemi, on neutralise l'ennemi, on désarme l'ennemi. Alors, ce que Napoléon a développé, Wilden regarde, il voit que les Arabes ont fait la même chose en la guerre contre l'Ottoman Empire, qu'il y avait Lawrence of Arabia qui a décrit en The Seven Pillars, la stratégie. Alors, parce que pour moi, on est en guerre. Hein? On était nés dans une société en guerre. Moi, je ne vois pas la guerre comme quelque chose d'exotique, un champ de bataille. La guerre est le bas salaire, la guerre est le chômage, la guerre est la tyrannie de patronat, la guerre est l'autocensure. Il y a un peur là. Et le peur, on voit le peur pas par la terreur, le visage blanc, le tremblement. On voit le peur par l'apathie. Hein? On voit le peur par la timidité. On voit tout ça sont des signes de peur. Et quand on voit les gens timides, les gens apathiques, hein, ça c'est la peur. Ils ont peur. Hein. Et de temps en temps, c'est peur et imaginaire, mais souvent c'est manipulé. Hein. Quelqu'un est dans leur tête de continuer cette peur pour neutraliser ces gens. Alors, je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre par la science de guerre, la guerre psychologique et la tactique, la logistique, la stratégie, pour nous libérer. Parce que si une fois qu'on voit qu'on est en guerre, on refuse d'être un objet manipulé comme cet beau soldat, mais on insiste à réfléchir pour nous-mêmes, on est automatiquement dans la résistance. On a une vie intérieure qui regarde quelle partie on est automatique, quelle partie on est robot et quelle partie on peut voir cette robot. Voyez? Alors la liberté est de voir comment on est conditionné et de ne pas aller jusqu'au bout avec ces conditionnements comme cette mesure va aller. Alors c'est de vraiment préparer, d'entrer dans une vie active où on peut vivre pour soi-même, pour améliorer l'environnement, pour avoir une société améliorée et juste, et égale, il faut préparer. Il faut se préparer mentalement et physiquement et avoir une autocritique, une connaissance de soi-même. Et ça, c'est la discussion d'Anthony Wilden. On ne peut pas être un bon stratégiste si on ne se connaît pas. Et il faut connaître l'ennemi très bien et jamais sous-estimer l'ennemi qui cherche de vous manipuler ou éliminer. Alors, voilà les sujets en général. Maintenant, je vais passer la parole à mes collègues. Je ne sais pas de qui vous comptez.
Je
te donne
la parole, je t'en pose une.
Okay. Now, vous connaissez la plupart de vous peut-être un autre poète de Grenoble, Gilles Vachon. Il est fondateur. Il a fondé la Maison de la Poésie en Saint-Marie, Saint-Martin-de-Hères. Oui. Il a écrit plusieurs livres. Il est professeur de sanskrit et yoga. Après faire la retraite, professeur au lycée international. Et il est en contact, il est polyglotte, il parle portugais, allemand, anglais et un peu de français. Et il est un ancien étudiant de Martin Heidegger à l'Université de Freiburg, le professeur de Jean Bossard.
je m'en suis venu.
Ce n'était pas un exemple particulier de résistance. Mais bon, sa résistance était peut-être plutôt intellectuelle que véritablement sociale et politique. J'ai participé avec plaisir à ce livre parce que ça m'a permis de raconter un petit peu la résistance que j'ai vécue dans ma famille pendant la guerre de 39-45. J'étais très jeune, je suis né en 32, donc en 40 j'avais 8 ans, mais ma famille était traversée par les courants de résistance. Et j'ai eu en particulier un oncle qui était prof d'histoire et géo, qui était germaniste, enfin qui parlait bien allemand, et dont le travail consistait à écouter les conversations des officiers et des soldats allemands dans le métro, dans la rue, et à les rapporter dès 1941-42 au groupe de résistance auquel il faisait partie. Je veux dire que cet oncle avait été, en tant que socialiste et en tant que franc-maçon, il avait été immédiatement viré de l'éducation nationale, ce qui ne s'appelait pas l'éducation nationale à l'époque, mais l'instruction publique. Il avait été taillé des cadres de l'instruction publique parce qu'il avait renoncé à prêter serment au maréchal. Il s'agissait d'une procédure qui était habituelle à l'époque. Il fallait procéder à une espèce d'allégeance au régime de Vichy. Moi-même, je me souviens qu'à l'école primaire, nous écoutions, on montait le drapeau, et puis à la fin de l'école primaire, au lycée aussi, on montait le drapeau, il fallait chanter Maréchal Nouvel. Voilà, c'était le matin, ça remplaçait l'hymne religieux dans les écoles anglaises. Voilà, c'était un hymne politique. Et donc, il y avait des gens qui ne l'acceptaient pas. Dans ma famille, il y a eu un certain nombre d'aléas comme ça. On avait un beau-frère de ma mère qui était instituteur. Puis, au moment de Stalingrad, en 43. Il y a eu des gens qui se sont affolés dans la population française, qui se sont dit, nous alors, c'est pas possible, on croyait que les Allemands allaient rénover l'Europe, allaient faire la révolution nationale sous l'égide de l'Allemagne, et voilà que maintenant l'Allemagne est menacée. Et alors le beau-frère de ma mère, donc, qui était instituteur, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il est entré dans la police. Et alors, comme il y avait des résistants dans la famille, on était aux abois. Au bout de 6 mois, il a compris que c'était peut-être un peu idiot ce qu'il faisait. Puis alors, Stalingrad progressait quand même d'une façon telle. Et puis, la guerre s'étendait, les Américains étaient déjà descendu en Algérie, la campagne d'Italie commençait. Bref, il y a des gens qui ont deux fois tourné leur veste. C'était donc c'était d'abord de la contre-résistance et ensuite de la résistance, mais un petit peu tiré par les cheveux. Et puis après, j'ai eu la chance au lycée de trouver des professeurs qui étaient issus de la résistance directement. Ça a été pour moi évidemment une éducation extrêmement riche. J'ai eu comme professeur un nommé Lablény qui avait épuré le corps des inspecteurs généraux au moment de la libération. J'ai eu comme professeur Jean Babi, qui était un membre du Parti communiste français, mais qui était entré en résistance très longtemps. Un autre qui s'appelait Diville, qui était également résistant. Et tous ces professeurs se trouvaient dans mon lycée, qui était le lycée Jacques Decour, qui peut vous dire quelque chose, puisque c'est le seul lycée français qui a été rebaptisé à la Libération par un groupe de résistants du lycée qui ont débaptisé le lycée qui s'appelait Rollin à l'époque pour lui donner le nom du résistant qui avait été abattu par les Allemands et qui était un grand intellectuel et un créateur, fondateur avec Aragon et même avant Aragon des lettres françaises, littéraire qui a vécu longtemps après la guerre. C'était donc tous ces professeurs enseignés au lycée de Cour. Or, je vous signale qu'il vient de paraître, j'aurais dû l'apporter aujourd'hui, mais bon, c'était un peu lourd, il vient de paraître un livre sur la résistance des élèves et des étudiants au lycée de Cour, justement, et avant, au moment où le lycée de Cour s'appelait encore le lycée Rollin, avec toute une pléiade de lycéens extrêmement politisés, donc les uns pendant la guerre s'engageant du côté de la collaboration et allant même du côté des SS, des Waffen-SS, et d'autres combattant au contraire dans la résistance. Ce livre-là s'appelle La guerre des cancres, car ce n'étaient pas forcément les meilleurs élèves qui résistaient. Il n'empêche que ces élèves qui résistaient et qui n'étaient pas les premiers de la classe, il y en a pas mal qui se sont fait un nom. Alors le livre est signé par Amato, qui est un beau jouet. Il était assistant d'éducation à Decour. Il a découvert derrière des documents administratifs toute une caisse qui datait de la guerre, des documents jaunis. Et il a trouvé dedans pratiquement le compte-rendu de tout ce que le lycée avait vécu comme difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, persécution, déportation des professeurs juifs, mise au pas et mise à la retraite des professeurs juifs et des élèves juifs. Or, au lycée de Cour, qui se trouvait le plus près de l'arrondissement nord de Paris, qui était un arrondissement du 18e, 19e, c'était des arrondissements populaires, eh bien, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient des couches populaires, et naturellement aussi des tailleurs juifs, enfin, des brocanteurs, enfin, tous ceux qui essayaient de survivre à ce moment-là. Beaucoup, il y a 200 élèves. Ce Bertrand Matteau, il a réussi à retrouver la trace de tous les élèves qui avaient été dans la résistance, ou bien au contraire attirés par les Waffen-SS, parce qu'il y a eu une section française des Waffen-SS qui s'appelait la section Charlemagne. Et il y en a qui sont morts, hein, des élèves de Deco qui sont morts là. En Russie, à ce moment-là. La plupart étaient dans la résistance. Que dire d'autre ? C'est très intéressant de voir ressurgir ce livre sur la guerre des cancres, parce qu'on arrive à comprendre que pendant la guerre, en France, tous les lycées français, sauf celui-là, étaient pratiquement soit apolitiques, soit du côté du manche, du côté du tétainisme, et que seul le lycée de Cour, enfin, qui ne s'appelait pas encore de Cour, a fait une véritable résistance. Et il se trouve qu'avec les manifestations contre la réforme des retraites récemment, eh bien, le lycée de Cour a encore été à la pointe des manifestations. Il y a eu un blocus. La police a fait le blocus. Voilà. Je raconte à certains.
Je veux le dire, mais c'est un peu pas.
Si ça ne vous ennuie pas, je peux dire une partie.
Je peux vous lire une partie concernant un de mes professeurs. Qui avait été prisonnier des Allemands, fait prisonnier alors qu'il était résistant, et ils en étaient sortis de façon assez particulière. Ben voilà, c'est celui-là, la Belle. Alors celui dont, dont j'ai gardé le premier souvenir, c'était la Belle. Je dois dire que je rends un petit hommage à ce, dans ce livre, précisément à mon premier professeur d'allemand qui était juif. Car une chose qu'on ne sait pas bien beaucoup, c'est que la plupart des enseignants d'allemand, il y avait beaucoup, on apprenait beaucoup l'allemand, hein, c'était aujourd'hui plus personne. Mais on l'apprenait beaucoup parce que c'était notre voisin immédiat et puis c'était notre ennemi potentiel à l'époque.
C'était une langue des cultures aussi.
C'était dans la culture, oui, parce qu'on avait une culture de résistance justement à l'impérialisme allemand aussi, dans beaucoup de familles. Et beaucoup de professeurs d'allemand au début de la guerre étaient des juifs ashkénazes qui parlaient parfaitement le yiddish. Alors, les professeurs d'allemand dans la région parisienne, ils étaient soit juifs, soit alsaciens. Parce que quand on est alsacien, on parle un dialecte allemand qui amène très facilement à parler allemand. Et quand on est juif, ben on parle le yiddish, qui est également un dialecte allemand. Tous les professeurs juifs ashkénazes de la région parisienne ont disparu dans les camps. Tous. Sauf l'exception d'un ou deux, naturellement. Dont le mien, d'ailleurs, qui était un germaniste assez distingué, qui s'appelait Lévy. Mais j'ai rencontré, donc, à la Libération, en retournant dans mon lycée, j'ai retrouvé un jour un professeur qui sortait de la résistance, celui dont je vous ai dit qu'il avait été président du comité d'épuration des inspecteurs généraux. Et voilà que un jour, en classe, arrive un incident. Un matin d'avril 1949, 4 ans après la fin de la guerre, la Blény, notre professeur de français, donc, avec sa franchise habituelle, nous annonce la visite prochaine d'un inspecteur général. Il s'agirait d'un homme dont il a approuvé la condamnation par le comité d'épuration qu'il présidait. Évidemment, il nous a dit, il ne peut pas être question pour moi de me laisser inspecter par ce genre de personnage, de me soumettre à son jugement, ni à son rapport au ministère, et par principe, je ne vais pas accepter que des collabos exclus par la grande porte reviennent par la petite. Ce qui a été le cas pour un certain nombre, évidemment. Et il ajoute, je vous le dis, mes chers élèves, si ce monsieur ose venir jusqu'ici, il ne posera pas la pointe du pied sur le plancher de ma classe, mais mon pied, lui, vous verrez comment il le resserra dans les fesses. Et c'est comme ça que la résistance, si vous voulez, continuait, d'une certaine façon, après la guerre, entre ex-résistants et ex-accusés de collaboration, 4 ans après 1945. C'était une période charnière. Et les choses devaient basculer, parce qu'on n'était plus dans l'État français. La République était déjà réinstallée. La résistance n'avait plus un pouvoir de décision final. L'ordre régnait, la machine administrative n'était plus contestable, plus question de remettre en cause l'État, c'était devenu la République. Mais enfin, l'inspecteur en question, il y en a qui ont dit qu'il avait les titres de résistant. Évidemment, à mon avis, c'est faux. Mais c'était le double jeu, vous comprenez. Il y avait des tas de collaborateurs qui, au moment de la libération, disaient « Oui, oui, mais moi, j'ai hébergé, j'étais bien copain avec un juif, j'ai hébergé un résistant une nuit. » Enfin, des choses incontrôlables, mais enfin, qui faisaient quelquefois. Quelquefois, quand même suffisamment illusion pour qu'on soit... qu'on soit indulgent avec eux. En tout cas, la classe a appris d'un seul coup, notre professeur qui avait fichu à la porte cet inspecteur général, lui, il était vidé. En 48 heures, il a été viré de l'éducation nationale. Parce que il s'était opposé ouvertement à au fonctionnement d'une institution. Eh bien, pour nous, ça a été un coup. Nous qui étions des élèves absolument sous le charme, c'est le moins qu'on puisse dire, de cet homme énergique, chaleureux, pédagogue extraordinaire d'ailleurs, on s'est mis en grève. Je peux autant vous dire que se mettre en grève en 49, alors que le droit de grève n'avait jamais été admis pour les lycéens, hein, c'était un peu quelque chose. Mais enfin, on est entré en résistance. On nous avait filé un professeur remplaçant. On a fait de la résistance intellectuelle, passive. On a refusé de lui répondre. Pour nous, c'était un usurpateur. C'était un brave paysan qui n'affichait aucune espèce d'opinion particulière. Et puis on est entré en résistance active, on est allé voir des journaux, toute la classe. Hein, toute la classe. On est allé avertir à Libération, il y avait un journal qui s'appelait Franc-Tireur à l'époque. Oui, il y avait déjà Libération. Même les journaux de droite, Figaro, François, il y avait Humanité, tous ont passé un petit article, un petit entrefilet pour annoncer la chose. Et le bac se profilait. Et on n'avait pas en classe. Et j'ai retrouvé récemment une lettre combinatoire de notre proviseur qui me disait écoutez, si vous ne réintégrez pas la classe, vous n'irez pas au bac. Parce qu'on était dans la classe. À la dernière minute, je veux dire, le proviseur nous a convoqués et nous a réunis, nous a dit écoutez, on ne va pas briser votre carrière d'un coup, vous irez au bac en candidat individuel, vous ne serez pas présenté par le lycée, et puis bonne chance pour vous, et puis l'année prochaine, et ben vous irez vous faire voir ailleurs, vous êtes fichu à la porte du lycée. Voilà, vous comprenez, c'était extrêmement curieux et ambigu, hein, les relations. Il y avait encore une lutte entre la résistance et la contre-résistance. Et comme vient de le dire Francis, c'était le reflet de quoi ? Du fait qu'on vit dans une société de conflits permanents. Est-ce que l'ordre établi, ça ne doit pas être aussi un ordre hiérarchique avec des comportements qui doivent absolument être ceux de l'élève obéit, et puis le professeur, il doit obéir aussi à son supérieur qui est l'inspecteur, et puis s'il a été collabo ou pas, puisqu'il est réinstallé dans l'institution, on ne discute pas. Voilà. Alors donc voilà, nous avons discuté, nous avons été foutus la porte et nous avons tous été reçus au bac. Voilà. Et donc c'était au lycée qui venait de s'appeler Jeanne de Cour, parce que cet homme, Jacques de Cour, m'a marqué d'une façon définitive à cette époque. Je vous rappelle que dans sa dernière lettre à ses parents, il a écrit cette phrase : je me considère un peu comme le terreau, comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. Il a écrit ça une demi-heure avant de mourir. Je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. La qualité du terreau dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française, en qui je mets tout mon espoir. Et dans la même lettre, il demandait à ses parents d'avertir son successeur pour qu'il veuille bien lire à ses élèves d'allemand, puisqu'il était professeur d'allemand, pour qu'il veuille bien leur lire la dernière scène d'une pièce de Goethe qui s'appelle Egmont, et dans laquelle Egmont, un héros qui meurt pour la liberté nationale des Pays-Bas, demande à ses partisans de mourir comme lui, comme je vous en donne l'exemple.
Voilà. Merci beaucoup.
Et enfin, je voudrais bien vous introduire à Patrick Litsangu, qui est du Gabon, mon étudiant en master's et maintenant mon PhD étudiant à Nanterre. Il a écrit un mémoire, un master's 2, sur la privatisation de la sécurité sociale, une étude, un analyse excellente. Et maintenant, il se lance sur l'alternative media et l'influence alternative media sur le media, la résistance alternative media et le mainstream media.
Merci, professeur Filet. Alors, on reste maintenant à la thématique de la guerre et de la résistance, mais sauf que cette fois-ci, il s'agit d'une comparaison entre les médias alternatifs et les médias traditionnels. Alors, l'idée de cette thèse m'est venue après avoir cherché dans les médias, je faisais des articles, et il se trouve qu'en 2004, il y a un journaliste de CBS Fox qui s'appelle Dan Rather, qui fait une émission sur le traitement préférentiel dont aurait bénéficié le président George Bush à l'époque lorsqu'il faisait son service militaire au Texas. Mais il se trouve que les documents utilisés par Dan Rather à cette époque n'étaient pas des documents authentiques. Alors, un blogueur a écrit à la chaîne CBS et a démontré preuve à l'appui que les documents présentés par le journaliste Dan Rather étaient falsifiés. Après cela, le directeur de la chaîne CBS s'est vu obligé de licencier Dan Rather. Alors, je me suis intéressé à cette situation où un blogueur remet en question les dires d'un journaliste traditionnel. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme si Goliath renversait, un peu comme si David renversait Goliath. Un média alternatif qui réussit à démonter point par point les dires des journalistes professionnels. Et alors, je me suis dit, j'ai trouvé le sujet de ma thèse. J'ai approfondi la question, et aujourd'hui je ne suis pas dessus parce qu'il y a une profusion d'informations sur ce sujet. Donc, ma thèse est basée sur la concurrence croissante entre les médias alternatifs et les médias traditionnels, et je pose la question de savoir, sommes-nous passés de l'information publique à l'information créée par le public? Parce qu'aujourd'hui, tout un chacun, avec nos mobiles, avec nos téléphones portables, si nous sommes témoins d'un événement, tout comme l'aurait fait un journaliste, on peut le filmer et faire un commentaire, et pourquoi pas monnayer cette vidéo auprès du grand chaîne de télévision. Donc, c'est là le sujet de ma thèse. Et là, à cette époque, en 2008, lorsque je le rédige, je m'intéresse particulièrement au blog d'un journaliste américain qui s'appelle Dar Jamel, qui était en Irak lorsque le pays a été envahi en 2003. Et Dar Jamel, contrairement à certains journalistes qui avaient le privilège d'accompagner les djihad sur le terrain, Dar Jamel était ce qu'on appelle un freelance journaliste, donc un journaliste indépendant. Et Dar Jamel, dans son blog, dans les mails qu'il envoyait aux États-Unis, il montrait à quel point nous étions soumis à une certaine forme de désinformation. Les médias traditionnels avaient une attitude partisane en Irak. Et Dar Jamel, dans son ouvrage et dans ses blogs, en fait, s'était vertué à montrer cette désinformation. Donc, je me suis basé sur un ouvrage qu'il avait rédigé dont le titre est Beyond the Green Zone. The Green Zone, c'est la zone verte, la zone de sécurité en Irak. Beyond the Green Zone, dispatches from undebated journalists. Et ensuite, également, j'ai lu un ouvrage rédigé par un professeur associé qui s'appelle Mark Tremaine, dont le titre est Blogging, Citizenship and the Future of the Media. Et également, un ouvrage intéressant, rédigé par Olga Bailey et Nico Kammerts, dont le titre est Understanding Alternative Media. Donc, ces ouvrages m'ont permis d'apporter ma modeste contribution à l'ouvrage coordonné par le professeur Filet. Donc, pour vous montrer à quel point c'était assez édifiant, j'ai des passages dans cet ouvrage que je peux montrer, que je peux vous citer. Par exemple,
il vaut mieux lire en français.
Okay. Par exemple, pour montrer à quel point le blog aujourd'hui, c'est comme si nous avons l'impression que les blogs aujourd'hui, c'est une sorte de contre-pouvoir, une sorte de journaliste post-moderne, si vous voulez. Comme le décrit si bien Olga Bailey, elle dit « There does appear to be a form of post-modern journalism here that challenges elite information, control, and questions the legitimacy of mainstream news. » Donc ici, les blogs est vu par Olga Bailey comme une sorte de journaliste post-moderne qui remet en question le contrôle de l'information voulu par les médias traditionnels, également leur légitimité. En quoi les médias traditionnels ont-ils l'apanage de l'information? Donc voilà un exemple qui montre que les blogs aujourd'hui sont une sorte de contre-pouvoir par rapport aux médias traditionnels. Et ensuite, je me suis aussi basé sur le blog d'un Irakien dont le pseudonyme est The Baghdad Blogger. C'était son pseudonyme. Et lui, il a rédigé il avait un blog dont le titre était What is Right? C'était un pseudonyme. Donc ce journaliste, cet Irakien de 29 ans, blogueur, à son tour également, dans ce qu'il écrivait, remettait en question ce que les informations dont nous abreuvait BBC ainsi que les chaînes telles que The Voice of America. Un extrait très pertinent. Alors, il écrit dans son blog, le 30 mars 2003, il écrit exactement, « If we had a mood barometer in the house, it would read, to hell with Saddam, and may he be quickly joined by Bush. No one feels like they should welcome the American army. The American government is getting as many curses as the Iraqi. » Or, vous vous rappelez, en 2003, nous avions l'impression que l'armée américaine était accueillie en libérateur. Et ici, par contre, il dit que s'il y avait un baromètre, on se rendrait compte que l'armée américaine, tout comme l'armée irakienne,
maudit.
Il y avait des malédictions, voilà. Ni l'armée américaine, encore moins l'armée irakienne, n'avait les faveurs du public comme nous le faisaient croire les médias occidentaux. Et évidemment, quand il dit No one feels like they should welcome the American army, voilà encore une preuve que les Irakiens ne considéraient pas du tout l'armée américaine comme une armée libératrice. Sûrement qu'ils avaient, c'était là, ils n'étaient pas dupes, ils savaient très bien que c'était sûrement les jalons de néocolonialisme, comme on le voit aujourd'hui. Et the American government is getting as many curses as the Iraqi, l'armée américaine reçoit autant de malédictions que l'armée irakienne. Donc voilà encore une fois de plus, voilà un témoin oculaire irakien qui remettait en question les dires des médias, des médias de la presse occidentale, des médias occidentaux tels que NBC, tels que CBS, tels que R, tels que encore un degré moindre RFI. Donc voilà les éléments qui m'ont permis de rédiger cet article en 2008 et que je poursuis aujourd'hui dans ma thèse sous la direction du professeur Filet. Donc je ne serai pas long. Donc voilà un peu ma contribution à cet ouvrage, c'est la thématique de la guerre, cette fois-ci vue par les médias alternatifs, vue sous l'angle de l'opposition entre les médias alternatifs et les médias traditionnels.
Et les technologies continuent d'évoluer, n'est-ce pas? Le texte n'était pas là quand vous avez commencé.
Nous avons Twitter aujourd'hui, par exemple, Twitter, c'est de microblogging. Voilà, donc aujourd'hui, évidemment, ça se poursuit. Donc nous sommes passés de l'ère de l'information publique à l'ère de l'information produite par le public. Voilà.
you know, on la librairie va rester ouverte pour 15 minutes pour que nous pouvons terminer après 7 heures de cette discussion. Peut-être on peut terminer avec une question, une discussion, le témoignage démocratique. Vous avez des choses à dire, quelqu'un? Déclaration, question?
Un petit peu pour répondre à, faire écho plutôt, au témoignage de Gilles. Dix ans plus tard, j'étais en classe de terminale, tout à fait par hasard d'ailleurs à Grenoble. Je suis pas venu au bureau, je me suis passé une terminale à Grenoble. Et peu de temps après la rentrée, un camarade de classe, qui était déjà un communiste militant, une prise de communiste. D'un communiste important, nous apprend que notre professeur de physique, qui n'était pas tout un bon professeur d'ailleurs, avait été le chef de cabinet du ministre de l'Éducation sous Pétain, qui s'appelait Instruction. Et notre classe, qui était déjà très rebelle, enfin, il y avait l'Algérie qui était là, on militait déjà tous, je crois bien tous les 30 de la classe, là. Avec du nuance d'hiver, on était déjà installé dans un processus de rébellion. On a décidé qu'on ne pouvait plus accepter, j'ai oublié son nom, je pense que ça va pas la ce professeur. Et on a entamé une action, peut-être un peu l'inverse de celle que nous avons entamée, là, pour le foutre dehors. Hein. Et je dois dire que nous avons été en sous-main, assez soutenus par le proviseur, ce qui était. Alors, il ne l'a jamais fait expressément, c'est un fonctionnaire d'État, hein, il n'était pas question qu'il s'engage trop avant, mais il nous a envoyé quelques signes, bien des signes, d'encouragement prudent, qui ne pouvait jamais administrativement se retourner contre lui. Et nous avons un peu comme vous, la mis au courant tout ce que. Les syndicats, les partis, le journal, enfin tout ça doit pouvoir se retrouver dans les archives. Et ben là, il y a eu une petite. Enfin, ça rejoint un peu gagné. Il a été exfiltré, je dirais, de l'enseignement assez rapidement, mais exfiltré par le haut. Enfin, il a disparu, on a mis longtemps avant. Enfin,
il a obtenu une promotion.
Il est devenu. Inspecteur, mais ailleurs en France. Et je crois même qu'il est devenu inspecteur, l'Algérie est encore française à l'époque, il est devenu inspecteur à Alger où personne n'a eu connaissance apparemment de son passé. Mais on ne l'a pas appris tout de suite.
Hein. Et, on a son savoir-faire.
On n'a pas obtenu grand-chose en départ de la classe. Qu'est-ce que ça avait comme valeur finalement par rapport à sa promotion d'inspecteur, il devient inspecteur de physique chimie en Algérie, qu'est-ce qu'il a dit après, je ne sais pas. Voilà. Bon, à part ça, je prépare une conférence sur là, ou plus exactement, les résistances en Allemagne au nazisme, ça c'est un gros sujet dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Parce que... Et il peut.
Moi j'ai une question pour Patrick. Je ne sais pas si Edwy Plenel va être inspecteur bientôt, mais on sait tous son passé trotskiste, de gauche, etc. Et je crois qu'il fait partie d'un espèce de blog actuellement, Mediapart ou Rue 89, voilà. Donc, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une officialisation aussi? Il y a les grands éléphants, là, un peu, des journaux ou de... télévisé ou écrit comme Le Monde d'ailleurs qui commence à virer loin de l'esprit de Boeuf Méry, hein. Moi je lis plus Le Monde parce que je trouve que c'est vraiment un papier qui vend le capital à fond de la caisse. Et est-ce que tu crois pas qu'il y a un danger pour les blogueurs pour
d'être récupérés?
Non,
tout à fait, tes craintes sont tout à fait fondées dans la mesure où maintenant, quasiment la plupart des grands médias ont créé des blogs. Parce qu'ils se sont dit, on a intérêt à... C'est de bonne guerre. Mm-hmm. Puisque c'était là une sorte... À leur émergence, les années 90,
les blogs, c'était comme une sorte de menace pour les médias. Mmh. Alors, toujours dans la logique de la contre-résistance, et bien, après, les grands médias ont aujourd'hui leurs blogs. Mmh. Voilà. Et ce qui est quand même paradoxal, parce que ceux qui ont fustigé au début, aujourd'hui, ils font la même chose. Mmh. Voilà. Ils pratiquent la même chose. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a la chaîne Fox News, justement, qui est dirigée par... qui est plutôt possédé par Robert Murdoch, mm-hmm. qui a un blog, voilà, mm-hmm. justement, et dont le travail, c'est justement attaquer, contre-attaquer les dires des blogueurs.
D'accord.
Donc c'est de bonnes guerres.
Ah. Oui, il y a un autre aspect aussi en cette haute technologie de communication, et que la vaste majorité des gens sont exclus. So, c'est une démocratie pour les élites hein, qui ont accès à l'ordinateur. Hein. Je viens de lire récemment que quelque chose comme 70% de la population mondiale n'a jamais utilisé un téléphone. C'est extraordinaire l'inégalité. Pour mettre ça en contexte, cette technologie et la communication en contexte, on risque de devenir collaborateur sans savoir, sans être conscient qu'on est collaborateur. De lutter, démocratiser un peu notre ghetto sans reconnaître que le monde est en train d'être détruit par ce capitalisme et suicidaire. Hein. So, c'est toujours le problème de rendre la technologie au peuple, hein, comme la science, de donner l'accès aux gens ordinaires de cette technologie et cette pensée scientifique pour qu'ils puissent avoir le pouvoir pour déterminer leur propre vie et protéger leur environnement et leur société. Essentiel, sinon on risque de voir une partie de le tableau et ignorer le vaste aujourd'hui.
C'est comme disait Bourdieu. Pardon, excusez-moi.
Non, en même temps, c'est vrai que le capitalisme, dans sa volonté d'être rapace et de vouloir gagner, on ne se rend pas compte que quand on crée Internet, on crée des blogs. Quand on crée le téléphone portable, c'est de plus en plus de gens qui ont le téléphone. Parce que le téléphone fixe, là, les lignes fixes, c'est généralement le nom de certains. Dans des câbles qui ont été installés le long de certaines côtes, en particulier anglo-saxonnes. Et donc le téléphone fixe a été quelque chose de vraiment luxueux pour peu de... C'était pas du tout démocratique. Mais on voit maintenant que l'extension du téléphone portable fait que n'importe quel berger de la Kabylie, par exemple au Maghreb, a son portable. C'est une autre façon de créer des blogs comme Donc il y a nécessairement, le capitalisme produit des choses pour s'enrichir, mais en même temps, on s'approprie certains éléments de ces produits-là, et qui peuvent être en même temps libérateurs. Je ne sais pas ce que vous pensez pour ceux qui viennent des pays du tiers-monde. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque facilement.
Moi,
tout à fait, mais quand vous dites au professeur Ben Rabat, les blogs, ça peut être un outil émancipateur pour nous, mm-hmm. ça peut nous permettre de contrecarrer ou alors de remettre en question certaines affirmations des médias traditionnels, mais c'est aussi un outil à double tranchant par la mesure où, grâce à un blog, les réseaux sociaux, mm-hmm. on peut facilement filer quelqu'un. Mm-hmm. Donc, dans les blogs, dans les réseaux sociaux, nous avons des informations que nous mettons à disposition parfois de nos connaissances. Mm-hmm. Mais grâce à ça aussi, on peut nous surveiller.
Facebook, par exemple.
Tout à fait.
Les paysans de Garon ont le portable?
Une minorité ont accès. Mais dans les centres urbains, la majorité a des portables.
Moi, je sais que dans l'Atlas, il n'y a pas des pylônes électriques, mais il y a le portable.
Voilà.
Donc, on a les rayons... Moi, ma sœur, je peux la joindre par portable, mais avant, il fallait faire 40 km pour aller à une téléboutique qui est tenue par des hommes. Et bon, c'est sûr qu'il y a un progrès, mais on sait très bien aussi comment le Mossad aussi arrive à détecter certains résistants.
Il y a maintenant justement le problème du Sahel actuellement, que ce ACNI-là, la frontière entre... entre l'Algérie, la Mauritanie, etc., il semblerait qu'il y ait des téléphones touraïa, c'est-à-dire satellitaires, où c'est presque impossible de les localiser. Ah bon. Et donc ils peuvent être à la fois en relation avec la CIA, comme ils peuvent être avec les services secrets algériens, comme ils peuvent être avec les services secrets français, etc. etc. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'explosion dans le contrôle des
Tu le confirmes, ça? Oui.
Donc voilà.
Elle vient du Mali, donc.
Oui, c'est vrai que dans le nord du Mali, il y a bien des gens qui utilisent ce genre de téléphones.
Là, c'est des téléphones satellitaires.
Voilà. Ah, satellitaires, oui, ouais, c'est autre chose.
Parce que les réseaux, il est limité à une certaine partie du pays. Donc, si tu avances vers le nord, les régions comme Tombouctou, Gao, Kidal, là, dans la ville, il y a les réseaux, mais dans la ville, il y a autre chose. D'accord. Donc, effectivement, les gens, ils utilisent ces touraïa pour communiquer.
D'accord.
Je voulais juste, pour des souvenirs, on parlait de souvenirs, excusez-moi de sauter du coca parce que je sais qu'il ne reste plus rien. J'avais 6 ans au moment de l'OAS en Algérie. Et là, un jour, on avait la récréation. Et on voyait deux professeurs en train de se bagarrer. Vous imaginez des gamins à l'école primaire. Hein. Et soudainement, on voyait deux d'origine européenne, bien sûr, en train de...
Physiquement.
Hein,
pas du mot.
Du jamais vu.
Bon, plus tard, évidemment. Non, c'était la boxe. Ah. Et on avait grandi dans le respect, c'est nous qui, normalement, en chahuté, c'était plutôt eux qui faisaient là. Et en fait, cette semaine-là, il y avait un plasticage dans le village où j'habitais, par l'OAS, et ils visaient une famille qui était proche du FLN, mais c'était des Européens. Et celui qui était aussi visé, c'était son père, était un républicain espagnol, mais qui se sont taillés en Algérie. Et vous voyez déjà, dans cette petite cour, après tout ça, grâce à l'histoire, je me suis rendu compte que les idéologies fascisantes étaient en train de se bagarrer parce que l'un des professeurs était OAS, pro-OAS. Mm. Ben, je me rappelle, il était raciste, il fallait voir comment il traitait ce qu'ils disaient les Arabes. Et c'était incroyable. Dans la guerre, il y avait la guerre. C'est ça qui est intéressant de voir. Nous, tout à l'heure, c'était bien de parler de celui qui s'est taillé en Algérie, qu'ils ont muté en Algérie, et donc ils ont utilisé leur savoir-faire. C'est comme au Sarès qui est allé enseigner comment torturer après la guerre, après le 11 septembre.
C'est ce qu'on appelle l'école française.
Voilà, ouais. Donc c'est des souvenirs aussi qui sont assez en même temps, c'est intéressant, c'est rigolo, mais en même temps, bon. Toutes les idéologies progressistes et fascistes qui se rencontrent.
Ouais, à mon avis, il faut tirer les leçons de ce passé parce qu'on est dans le conflit, dans la guerre aujourd'hui. Le marketing est une stratégie guerrière, hein, n'est-ce pas? Pour imposer une certaine technique de manipuler les gens pour réussir de gagner de l'argent, de vendre des choses. So on est toujours l'objet pour ces gens-là. Et comment de refuser d'être l'objet, d'être manipulé, le premier pas, il me semble, est d'admettre qu'on est manipulé. De voir à quel degré on est manipulé. Et à ce moment-là, on voit le petit marge où on peut sortir si on est vigilante. Et si on n'est pas vigilante, on est robot, manipulé par les entreprises. Et c'est ça la stratégie de guerre. C'est ça la guerre psychologique, la propagande, le marketing. Mm-hmm. On est réduit à un objet pour être utilisé pour le profit de l'autre.
Dans la guerre militaire comme dans la guerre économique, qui est un supérieur et qui a le pouvoir et qui continue d'essayer de l'enfoncer, enfin, du côté des pions qui sont dans le public, quelle soit la chair à canon ou la chair tout simplement
au sommet. Quoi. J'ai une question à vous poser. Vous n'avez pas l'impression d'un déjà-vu quand vous voyez ce qui se passe actuellement dans la scène française politique?
Oui, surtout en ce qui concerne actuellement la vision d'une société française qui devrait se exclure tout ce qui est étranger, pratiquement. Mm-hmm. Enfin, ça, c'est vraiment ça me rappelle de très mauvais souvenirs.
Et j'ajoute que la police française est amenée à accomplir des tâches aussi sales que pratiquement que pendant la guerre. La différence entre les tâches de la police d'aujourd'hui et les tâches de la police en 1942, cesse de se rétrécir, la différence.
C'est vrai que M. Hortefeux fait souvent penser à Maurice Papon.
L'exposition des Roms, c'est quelque chose qui rappelle complètement les arrestations. Délit de faciès, on n'a pas le droit d'être pauvre, on n'a pas le droit d'être juif, on n'a pas le droit d'être... Oui. On n'a pas le droit d'exister. Non, c'est un déni de culture démocratique. Non, c'est triste. Mais il y a toujours moyen de résister.
Inventaire.
Ah, ouais, c'est reproduire. Et viendra un jour d'ailleurs où la police montrera qu'elle a été quand même beaucoup plus compréhensive. Il y a quand même eu des gens qui ont un peu sauvé l'honneur.
Et les salopards, c'était une minorité.
Ouais. On se préparait à tout.
En tout cas, merci.
Voilà. Ok, well, je vous remercie.
Oh, merci. 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 Bon. Merci.